Bonjour à tous, Carolina sur RLP pour le podcast Boss Ladies. C'est le podcast qui donne la parole aux femmes chefs d'entreprise, celles qui osent, qui créent, qui innovent et qui travaillent chaque jour pour faire bouger les lignes. À chaque épisode, nous mettons en lumière des parcours inspirants, des réussites, mais aussi des défis pour montrer l'envers du décor de l'entrepreneuriat au féminin. Boss Ladies, c'est un espace authentique, motivant et bienveillant pour toutes celles qui entreprennent ou rêvent d'entreprendre. Nous sommes avec Caroline Foissac, activatrice d'épanouissement personnel, facilitatrice relationnelle pour le particulier et l'entreprise. Caroline, bonjour.
Bonjour.
Peux-tu te présenter, parler un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a poussé à devenir coach ?
Alors, j'ai 53 ans, bientôt d'ailleurs 54. Auparavant, j'étais conseillère bancaire. J'ai fait une reconversion professionnelle puisque je ne me reconnaissais pas dans ce métier. Je ne pouvais pas aider les autres, ce qui est une valeur principale chez moi. Donc, j'ai décidé de changer de voie.
D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui a été un déclic pour toi ? Tu dis que donc, ça ne te comblait plus, le métier que tu faisais. Qu'est-ce qui t'a orienté vers le métier de coach ? Parce qu'on ne devient pas coach comme ça, j'imagine.
Je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Donc, je me suis fait accompagner par, justement, une coach pour savoir ce qui me faisait vibrer. Et à partir du travail que j'ai effectué avec elle, et à partir aussi de recherches et de mini-formations, des formations qu'on peut faire sur Internet, accessibles à tout le monde, une idée a immergé, c'était celle de devenir coach. D'accord. Donc pour le particulier, dans un premier temps, et ensuite, dans un deuxième temps, j'ai passé des examens pour m'adresser aux entrepreneurs.
Quelle est ta spécialité en tant que coach ? Donc, tu t'adresses à un public qui est à la fois donc particulier et professionnel. Mais qu'est-ce qui te différencie, par exemple, des autres coachs ? Quelle est ta spécialité ?
Alors, je suis un coach qui est directif. Donc, ça plaît ou ça ne plaît pas. Pour moi, l'important, c'est que lorsque le client a fait une séance avec moi, il faut savoir que les séances durent une heure. J'attribue une grande importance au fait que lorsqu'ils repartent, il ait compris quelque chose, il ait un vrai outil avec lui et qu'il va pouvoir s'en servir rapidement et voir ce que ça produit rapidement.
Et alors, quels sont les domaines, toi, dans lesquels tu interviens, tu accompagnes les gens ?
Alors, principalement, que ce soit les professionnels et le particulier, il y a des sujets qui sont répétitifs, c'est la confiance en soi, le lâcher prise, la gestion des émotions, la gestion des conflits, donc désamorcer les conflits. Ce sont des sujets qui reviennent très fréquemment, mais aussi sur l'entreprise, la gestion du temps, l'organisation, comment faire pour trier ce qui est important, pas important, urgent, savoir se donner du temps à soi et pas vivre que pour travailler, mais avoir aussi du temps pour soi.
Et alors, ça fait combien d'années que tu es coach aujourd'hui ?
Depuis 2017.
Depuis 2017. Et est-ce que tu as vu une évolution au niveau des problématiques, entre guillemets, que les gens et chefs d'entreprise peuvent rencontrer ? Est-ce que le climat, est-ce que tu dirais que le climat géopolitique est un peu impactant dans les perspectives et dans la confiance qu'on peut avoir en soi ou en l'avenir ? Est-ce qu'il y a des redondances un petit peu dans les problématiques que les gens ont ces derniers mois, ces dernières années ? Je fais le parallèle avec, par exemple, un de mes proches qui est médecin et qui constate certaines problématiques communes chez ses patients. Est-ce que c'est le cas aussi pour toi ?
Oui, je pense que le contexte étant très anxiogène, on voit apparaître des choses qui n'étaient pas aussi présentes auparavant, comme des burn-out, des gens qui se questionnent sans cesse, qui changent de métier aussi. Donc, il y a un turnover qui est important. Et pour un entrepreneur, gérer le turnover, ce n'est pas évident. Je m'aperçois aussi que les clients ne restent pas longtemps, disons, ne sont pas sur une longue période professionnelle dans la même entreprise. Ils aiment varier. Ils ont compris que le sens de leur vie était en priorité le côté personnel avant le côté professionnel et que s'ils étaient heureux personnellement, ils allaient l'être professionnellement et vice-versa, évidemment.
Toi, la richesse de ton métier, c'est que tu peux observer les deux phénomènes sous deux prismes, parce que tu accompagnes tant le chef d'entreprise qui rencontre les difficultés, par exemple, du turnover, mais également le salarié qui, lui, peut-être se remettre en question. Et par rapport à ce que tu dis, j'imagine que plusieurs personnes sont amenées à se remettre en question au cours de leur carrière, sur leurs choix, sur ce qui les importe vraiment. Qu'est-ce qui est intéressant de constater qu'est-ce que tu remarques, toi, en particulier ?
Alors, je pense déjà que je remarque qu'il y a de très grosses incompréhensions de la part du particulier, mais aussi des entreprises, par rapport à la communication. Puisque comme on communique mal, on interprète et du coup, on ne part pas dans la bonne direction tout simplement. Donc, si on apprenait déjà à communiquer, si on apprenait à connaître le langage de l'autre, puisqu'on a des langages qui sont tous différents, on avancerait plus vite. Oui, ça, je m'en aperçois. Et c'est très commun. C'est pour ça que j'axe beaucoup aussi sur le fait de savoir communiquer avec des émotions et d'exprimer sans attendre trop longtemps ce qui se passe pour pouvoir éclaircir la situation et partir sur des bases qui soient saines pour tout le monde, autant le particulier que l'employeur. Et je me rends compte aussi que beaucoup de gens ne se connaissent pas et n'ont pas pris le temps de se connaître et vivent comme ci, comme ça, on va dire, sans se poser trop de questions. Quand ils viennent chez moi, je leur pose des questions qu'ils ne se sont pas posées, du style, je ne sais pas, quelle peut être votre vie idéale ? Qu'est-ce qui serait mieux dans votre vie ? De quoi avez-vous besoin ? Ce sont toujours des problématiques pour eux d'exprimer des besoins et des émotions. Alors que ça devrait être un outil, justement, pour aller beaucoup plus vite dans la communication et être très clair.
Comment tu accompagnes, toi ? Quelle est ta méthodologie par rapport à l'accompagnement que tu fais vis-à-vis de tes clients ? Comment ça se passe ? Peut-être pas une journée type, parce que je ne sais pas sur quel laps de temps ça se tient, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, il y a deux possibilités. C'est tout à fait différent quand c'est avec le particulier et quand c'est avec une entreprise. Pour le particulier, il y a 6 séances d'une heure. Donc, j'utilise des outils, par exemple avec les émotions, qui sont très visuels et qui permettent de voir et d'avancer assez vite, où on parle essentiellement justement des besoins, de la responsabilité de chacun du bonheur futur. On peut parler un peu du passé, mais je ne suis pas psychologue. On parle plus du futur, évidemment, le passé compte, mais ce qui compte, c'est de mettre en place des choses qui soient vraiment réelles et comment les mettre en place. Donc ça, c'est différent selon chaque personne. Donc c'est du travail qui s'effectue à chaque séance. Je prépare ma séance, mais je dois l'ajuster selon ce qui s'est passé dernièrement avec le client. Par contre, avec l'entreprise, je ne travaille pas de la même manière. Dans un premier temps, je vais voir le chef d'entreprise. Nous avons un premier contact où il me donne ses problématiques, ses axes améliorés, j'ai tout un questionnement. Dans un deuxième temps, je fais une réunion avec les personnes qui doivent être coachées, en tout cas que le chef d'entreprise a mis dans ce contexte-là. Ce n'est pas forcément toute l'entreprise, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ces personnes-là, je fais un atelier commun. Je leur demande quels sont les points forts de l'entreprise, quels sont les axes améliorés. Là aussi, je travaille de façon souvent anonyme, avec des outils qui permettent d'être anonyme, donc de se lâcher et de dire réellement ce qui se passe dans l'entreprise. À partir de là, j'ai une base pour pouvoir travailler. Donc, je reviens vers la chef d'entreprise en ayant fait le tri des points forts et des axes améliorés. On regarde ensemble ce sur quoi il veut qu'on axe le travail et on établit un plan d'accompagnement. Là, c'est des accompagnements qui peuvent durer, qui sont vraiment variables, hein, qui peuvent durer de 2 journées à plusieurs mois, sans y aller tous les jours, hein, bien au contraire. C'est-à-dire, on met quelque chose en place ou bien on invente quelque chose. Je veux dire, un outil qui va permettre de gérer les choses. Voilà, en fonction de la problématique, on va inventer un outil qui va permettre de gérer, par exemple, le planning. Avec des choses basiques et avec un tableau qui est au mur, ça va permettre la gestion de l'entreprise comme si le chef d'entreprise n'était pas là, mais rendre autonome chaque salarié pour que ça fonctionne sans qu'il soit là. Puisque le chef d'entreprise, aujourd'hui, doit souvent démarcher, est avec les banques, enfin, il y a beaucoup de problématiques, faire attention à ses marchés, faire en sorte d'avoir un lien très privilégié avec ses clients. Il n'a plus forcément le temps d'être sur le terrain et de tout vérifier. Donc, le but pour moi, c'est de rendre autonomes tous les salariés. Ça les fait monter en compétences, ça les fait donc avoir de la confiance en eux. Ça leur donne aussi de la reconnaissance. Et toute cette machine fait que l'entreprise va avancer, c'est le but, sans que le chef d'entreprise soit réellement là. Évidemment, il est là, il est obligé d'être là, parce que c'est lui qui fait rentrer beaucoup de choses au départ. Mais en tout cas, les rouages sont faits de telle manière à ce que ça fonctionne presque tout seul.
Et qu'il puisse se consacrer sur son
vrai job.
Voilà, sur son vrai job de chef d'entreprise. Qu'est-ce qui pousse un chef d'entreprise à venir te voir aujourd'hui principalement ?
Alors, ce sont des chefs d'entreprise, soit en ce moment, ils peuvent être perdus par des soucis économiques, ils ne savent plus trop comment faire. Donc, du coup, ils se remettent en question. Ils sont aussi perdus par rapport aux employés, c'est-à-dire ils n'arrivent pas à les comprendre et à les gérer, puisque chaque employé se gère d'une manière différente et que souvent ils ont envie d'avoir, comme à l'école, donner un travail d'une manière, qu'il soit fait d'une manière, mais dans la réalité ça ne marche pas comme ça. Dans la réalité, on ne s'adresse pas à Pierre, Paul et Jacques de la même manière, et pourtant pour obtenir le même travail, il y en a qui sont plus sensibles que d'autres, donc on travaille sur ces choses-là.
Nous qui sommes dans une région principalement rurale, tu as eu l'opportunité de pouvoir travailler avec des entreprises locales, mais aussi des entreprises dans des départements limitrophes. Est-ce que tu dirais qu'ici, en Dordogne, c'est peut-être un petit peu plus compliqué ? Enfin, quel est ton point de vue par rapport à l'appétence des chefs d'entreprise de faire appel à toi ?
Alors justement, en Dordogne, c'est plus complexe, puisque un accompagnement en entreprise, c'est quelque chose d'humain. Et en Dordogne, on pense plus matériel que humain. Or, c'est l'humain qui est quand même au bout de cette chaîne, et c'est l'humain qui fait fonctionner une entreprise, et non le matériel. Il faut savoir que moi, j'ai des prises en charge, c'est-à-dire quand j'interviens dans une entreprise, il est très rare qu'elle me paye directement. Elle a des enveloppes de formation, on utilise ces enveloppes de formation. Sauf que les entrepreneurs pensent qu'il faut utiliser ces enveloppes de formation pour des choses matérielles, comme le secourisme, les CACES, des choses qui sont parlantes ou, entre guillemets, obligatoires pour l'entreprise. Et ne pensent pas du tout au côté humain, le bien-être. Oui, on en parle, mais on ne fait pas grand-chose, en fait.
Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ces prises en charge ? Qui a droit, pour quel montant et à peu près combien ça coûte de faire appel à tes services ?
C'est complètement variable. Ça dépend du temps de l'accompagnement, puisque ça se mesure en heures. C'est des forfaits qui peuvent faire 14 heures. Donc après, on multiplie par 2, par 3, par 4. Entre-temps, il y a aussi des fois l'entreprise qui paye avec ses fonds propres, puisque l'accompagnement n'est pas forcément terminé. Il faut aussi souligner que l'entreprise, elle vit. Donc il y a des départs et des arrivées. Donc je dois m'adapter aussi à ça. Quand il y a une arrivée, c'est important d'accueillir le nouvel arrivant qui se sente bien dans l'entreprise. Donc souvent, j'interviens aussi pour voir par rapport à son passif, parce qu'il peut arriver déjà avec des traumatismes et à peur de la nouvelle entreprise, pour ne pas reproduire ce qu'il a vécu. Donc l'entreprise est vivante, c'est-à-dire quand on commence un accompagnement, on a une ligne de conduite, mais qu'on doit adapter pendant l'accompagnement, parce que ça change. Au début, on peut avoir 15 salariés, à la fin, on peut en avoir que 12, ou bien on en aura 18, ou bien il y aura eu le même nombre de salariés, mais il y a du changement, du turnover. Donc, s'il y a du changement, il y a un accompagnement à faire pour ceux qui arrivent, pour une intégration et une cohésion avec tout le monde.
Donc, il y a des enveloppes qui sont administrées aux entreprises, et ça, ce sont les OPCO ?
Oui, ce sont les OPCO, et moi, mes accompagnements, ils débutent à partir de 2500 euros.
Pour repréciser un petit peu le fonctionnement des OPCO, c'est quoi ? C'est une enveloppe qui est à peu près de 15 000 euros par entreprise, c'est ça ? Je me trompe ?
Non, un OPCO, c'est en fonction du nombre de salariés.
Et cette enveloppe-là, si elle n'est pas consommée, elle est perdue ? Comment ça se passe ?
Et ça dépend. Là, on va sur un sujet qui est trop épineux.
D'accord.
Parce que ça fait que changer. Souvent, elle peut être perdue, mais dans la réalité, c'est pas vrai. Des fois, elle se cumule. C'est complètement aléatoire selon l'OPCO, selon l'entreprise, selon le nombre de personnes. Il y a trop de facteurs.
Ok. Bon, ben,
et puis, moi, c'est pas mon domaine.
Ok.
Moi, je sous-traite ça par un organisme Calliope.
Quelle est ta marque de fabrique au niveau de ce que tu proposes ? Quel est ton mantra, ce qui fait que ben, moi, je vais faire appel à Caroline Foissac ?
Alors, ma marque de fabrique, c'est, je pense, le côté énergie, le côté directif aussi, c'est-à-dire, voilà, on ne va pas tourner autour du pot parce que pendant ce temps, on n'est pas productif et l'entreprise n'a pas le temps. C'est toujours aussi le leitmotiv, il faut se dégager du temps. Donc, dans ce peu de temps qu'on m'octroie, il faut être productif de suite. Donc, c'est plutôt ça ma marque de fabrique.
Tout à l'heure, tu abordais les différents domaines sur lesquels tu intervenais, la gestion du stress, la communication, la confiance en soi. Comment est-ce que tu accompagnes quelqu'un qui est bloqué ou qui ne sait pas quelle direction prendre ?
Là, pareil, il n'y a pas de règle magique. C'est par rapport à un questionnement. C'est comme une arborescence. C'est-à-dire, je fais un questionnement et par rapport à ce questionnement, je m'oriente plus sur... comme on a dit tout à l'heure, des besoins, plus sur des émotions. On définit ensemble un objectif et à la fin, j'arrive à décider mon accompagnement. Mais l'accompagnement, je le répète, il peut aussi changer. L'objectif va rester le même, mais il va se passer des choses dans la vie de mon client qui fait que je vais devoir changer l'accompagnement pour plein de raisons.
J'ai une question qui me taraude un peu, c'est... je ne veux pas faire de généralité, mais les salariés ont tendance à un petit peu déshumaniser le chef d'entreprise et à peut-être moins se mettre à sa place et à peut-être pas comprendre les enjeux auxquels il est confronté au quotidien pour que l'entreprise fonctionne. Quel mythe, toi, tu pourrais déconstruire par rapport à cette idée préconçue du chef d'entreprise, toi qui vois un petit peu le revers un petit peu de la médaille, qui les voit dans leur fragilité, qu'est-ce que tu pourrais en dire de ça?
Alors ça, justement, c'est un outil que vraiment que j'adore et que j'utilise. Je fais des scènes théâtralisées. J'utilise beaucoup l'aspect ludique dans mon travail, c'est-à-dire j'essaie de ne pas faire quelque chose de scolaire, parce que quand je fais quelque chose de scolaire, je perds la moitié de mon public, c'est ce que j'ai constaté. Et justement, je leur fais faire souvent des scénettes avec un petit peu de vie, ma vie d'entrepreneur. Donc souvent, je joue le rôle d'un client ou d'un salarié, et je leur fais jouer le rôle de l'entrepreneur. Et à partir de là, je soulève toutes les problématiques existentielles. Donc, côté salarié, le salarié arrive en retard, le salarié est malade, le salarié ne veut pas faire, ou le salarié fait pas exactement comme ça aurait dû être fait. Côté client, le client qui n'est pas satisfait, le client qui va râler, le client qui est trop exigeant, le client qui prend trop de temps. Voilà, on aborde un petit peu tout ça, mais uniquement sous forme de scénette. Comme ça, ça les fait tous travailler. Et quand ils repartent, ils ont compris. Ils ont compris la vraie vie. Mais on rajoute aussi l'aspect financier. D'accord. C'est-à-dire, je fais jouer un salarié en disant, voilà, chef, je suis arrivé sur le chantier, j'ai oublié ça et ça. Est-ce que vous pouvez me l'apporter? Est-ce qu'on revient? On calcule le temps, ce que ça coûte, en timing, toutes ces choses-là.
Donc le but, c'est de mettre un petit peu le salarié, et pas que, hein, aussi, j'imagine, le chef d'entreprise quand il fait... Également les scénettes, mais de le mettre face à ses idées préconçues finalement, et à le sensibiliser à ce que ses manquements ou ses comportements peuvent avoir comme impact financier sur l'entreprise.
C'est... Oui, oui, okay. Tout à fait. Et que l'entreprise a besoin d'un fonctionnement, une trésorerie qui soit saine et constante, progressive. Et on ne peut pas se permettre, en tout cas aujourd'hui, d'avoir des oublis, des manquements, sachant que déjà les plannings changent au jour le jour pour plein de raisons aussi avec le contexte économique. Donc il faut s'adapter et on doit compter sur chaque salarié.
Moi, je trouve ça hyper intéressant de pouvoir voir avec un peu plus de transparence, mais c'est vrai que c'est peut-être une erreur entre guillemets que le chef d'entreprise a, c'est-à-dire qu'il a peut-être pour se protéger ou parce qu'il ne le juge pas spécialement utile, ne va pas aborder certains sujets avec ses salariés, notamment pourquoi c'est important d'optimiser sa façon de travailler. J'ai connu des chefs d'entreprise qui ne disaient pas à leurs salariés, mais pour que leurs salariés puissent être payés à la fin du mois, eux ne se versaient pas de salaire. Et c'est vrai que je trouve que c'est des choses qui ne seront pas dites, mais qui devraient l'être.
Ça... Tout à fait. Donc du coup, par rapport à ça, j'essaie d'avoir des vraies bases que je peux retrouver grâce à la secrétaire ou au comptable, en disant que, par exemple, l'entreprise, en début du mois, elle doit sortir, pour exister, 45 000 euros. Mmh. 45 000 euros, ça correspond aux charges de l'entreprise, donc peut-être au crédit, peut-être au loyer, voilà, les salaires, toutes les charges qui vont avec, aussi l'électricité, les camions, toute la flotte, toutes ces choses-là. Et je le fais un peu sous forme de quiz, c'est-à-dire que je sais ce que ça coûte, et je leur dis, voilà, combien ça coûte d'après vous? Comment il faut faire? Et après, je fais l'effet inverse. Par exemple, actuellement, c'est le cas. Telle entreprise ne nous paie pas, donc il nous manque 40 000 euros ce mois-ci. Je fais comment pour payer? Pour payer au moins mes salariés. Comment je fais? Et là, ils prennent conscience de la difficulté, de la gymnastique que le chef d'entreprise doit effectuer au quotidien pour se maintenir.
Oui. Est-ce que toi, tu as un exemple marquant d'une transformation avec un client? Que ce soit... côté un client pro ou un client en perso?
Alors oui, j'ai un client privé, donc un particulier qui est venu chez moi. C'était une personne qui était cadre, on va dire, sup, donc dans une entreprise avec une rémunération qui était très importante, qui n'en pouvait plus parce qu'il était sous pression, il ne se reconnaissait pas dans ce travail, il n'arrivait pas non plus à voir sa famille autant de temps que ce qu'il le voulait. Donc, du coup, il n'était pas bien. Et ce client, suite à tout ça, il a aussi fait un bilan de compétences en parallèle, a changé de métier et il a fait un métier qui est lié à l'extérieur. Donc, aujourd'hui, il est dehors en permanence et qui a aussi allié le sport puisqu'il était très, très sportif. Donc, il est passé d'un salaire... qui était, on va dire, 5 fois plus important ou 6 fois plus important que celui qu'il a aujourd'hui. Donc là, ouais, je salue la performance puisque la personne avait une cinquantaine d'années et a eu le courage et la compréhension surtout de voir qu'il n'était pas heureux avec ce qu'il avait auparavant.
Et donc il a entrepris son changement de vie. Est-ce que toi, tu aurais un outil, une habitude ou une pratique que tu recommanderais à chacun ? Quelque chose qu'on pourrait tous faire au quotidien
Oui, alors, les petits secrets, c'est d'avoir un journal de gratitude, c'est-à-dire le soir de marquer au moins 3 choses positives qui sont arrivées dans la journée. Ça permet, les jours où on n'est pas au top, d'aller dans ce journal de gratitude et de se dire « Ah mais oui, finalement, je sais faire beaucoup de choses. » Donc, de rentrer dans un cercle vertueux de confiance. Après, il ne faut pas oublier aussi toutes les choses, tous les actes de la vie qui font qu'on est bien, c'est-à-dire manger sainement, donc cuisiner le plus possible. Dormir correctement, c'est-à-dire aller au lit à 22h30, 23h par exemple, et avoir les heures de sommeil nécessaires pour pouvoir réfléchir correctement le lendemain. Ne pas trop être sur les écrans, ce sont des choses basiques, mais ce sont des choses qui fonctionnent.
Faire du sport aussi, j'imagine.
Je ne t'ai même pas dit. Mmh. Oui, faire du sport, c'est juste une évidence. Alors, on ne prépare pas les JO, mais en tout cas, se bouger de manière à sécréter les bonnes hormones et les hormones du bonheur pour être vraiment bien, quoi.
Est-ce qu'il y a des pièges fréquents à éviter lorsqu'on entame une démarche de coaching ou de développement personnel ?
Alors oui, il y a des pièges à éviter, à savoir que lorsqu'on démarre un accompagnement, il faut vraiment, vraiment s'investir. Ça veut dire qu'il y a des séances à faire. Et j'indique les séances, souvent c'est la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, après on espace de 2 semaines. Donc il y a un timing à respecter, puisque on a besoin... Des fois, de créer des habitudes, il faut 21 jours pour créer des habitudes, pour que ça avance. Donc oui, quand on commence un coaching, on ne peut pas dire « Caroline, je viens là, et puis peut-être dans 2 mois, non, ça ne marchera pas ». C'est comme quand on apprend à conduire, on y va plusieurs fois, et on tient le rythme, sinon on n'apprendra jamais à conduire. C'est pareil.
Qu'est-ce qui te motive, toi, au quotidien, dans le métier que tu exerces ?
Alors, ce qui me motive, c'est de voir l'impact que les gens ont suite aux séances, et le fait qu'ils soient transformés, qu'ils... Il y en a qui renaissent parce qu'ils sont vraiment au bout du bout. Il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui, des burn-out, il y en a beaucoup. Que ce soit côté entreprise ou côté dans les consultations privées, c'est la même chose. Et c'est vraiment top de voir les gens qui ont trouvé ce qui leur fait sens et qui ont enfin une lueur d'espoir parce qu'ils arrivent à avoir un objectif.
Aujourd'hui, voilà, j'imagine que ça ne doit pas toujours être facile pour toi de trouver des clients. Notamment tout à l'heure lorsqu'on évoquait que dans notre principale région qui était assez rurale, la sensibilité au fait de se faire accompagner est un petit peu moindre que dans les départements voisins. À une époque où beaucoup de personnes s'autoproclament coach, qu'est-ce qui peut être un frein au développement de ton entreprise ? Le fait d'avoir cette étiquette de coach peut être assimilé à, je ne sais pas moi, tout et n'importe quoi ? Est-ce que tu es prise au sérieux ?
Ben oui, ça assimile à tout n'importe quoi. Oui, le métier de coach, c'est un peu... galvaudé parce que de toute façon on entend ce mot et derrière on peut mettre coach sportif, coach en musique, on peut mettre tout ce qu'on veut, coach en écriture, donc c'est pas un mot qui est vraiment adapté, même consultant c'est pareil, consultant ça peut être dans beaucoup de choses, donc c'est pas un mot qui est juste, mais c'est pourtant un titre qui est reconnu.
Est-ce que toi, j'imagine que ça t'arrive de démarcher aussi pour te faire connaître des entreprises et des particuliers, quelles sont leurs réticences principales ?
Moi, je démarche pas.
Tu démarches pas ?
Non.
Ah bah formidable, ça c'est beau.
Je démarche pas parce que dans le sens où si la personne n'est pas sensibilisée, ça marchera jamais.
Oui, mais après il faut savoir aussi que ça existe.
Oui. Il faut savoir que ça existe, donc je peux en parler, mais je ne démarche pas.
D'accord, il y a une différence entre le fait d'en parler et le fait de démarcher.
C'est-à-dire, je peux en parler lorsque je suis sur une réunion, justement avec des entrepreneurs ou bien ailleurs, et dire ce que je fais comme métier, mais je ne vais pas démarcher. Parce que la personne, il faut qu'elle ait déjà une sensibilité et qu'elle soit apte à comprendre qu'il va y avoir un changement qui va opérer, qui va se faire. Et tout le monde ne veut pas un changement. Il faut que ça vienne d'elle. Si c'est l'extérieur qui lui dit, il faudrait changer, ça ne marchera jamais. Donc, j'estime qu'on ne peut pas démarcher.
Et comment tu trouves, toi, l'énergie au quotidien lorsque tu es coach ? Est-ce que toi aussi, tu es suivie ? Tu es aussi humaine ? Où est-ce que tu trouves toute cette énergie ? Et est-ce que quelqu'un t'accompagne de ton côté ?
Alors, l'énergie, je la trouve déjà dans le fait que je fais très attention à mon temps de travail. C'est-à-dire que je garde beaucoup de temps pour moi. du temps pour aller marcher, du temps pour me reposer. Je n'enchaîne jamais, mais jamais, les clients. J'ai des temps où j'alterne donc de l'administratif, de la réflexion, de la formation pour moi, de la formation que je peux donner sur de l'entreprise, des rendez-vous individuels. Donc, je mixe tout ça, ce qui fait que dans la journée, je ne travaille pas énormément. Je veux être opérationnelle pour les clients et je dois être pleine d'énergie pour eux. Et si je travaille de 8h à 20h, ce ne sera pas le cas. Je ne pourrai ni les écouter, ni les entendre correctement et ni les aider correctement. Ça, c'est mon idée. Ce n'est pas une vérité. C'est juste mon idée et ma façon de faire. D'autre part, oui, un coach est coaché. Parce que des fois, on est dans un rond-point, on ne trouve pas la sortie. Donc, on a besoin d'aide parce qu'on a une problématique qui est beaucoup plus importante avec un client. Là, en ce moment, j'ai par exemple une jeune fille qui a que 12 ans, qui est sportive et qui doit commencer une carrière de sport à haut niveau et qui est bloquée dans la communication. C'est-à-dire, elle n'a qu'une seule phrase, c'est « je ne sais pas ». Donc, c'est compliqué. Donc, je fais avec des outils différents. Je prends le problème à l'envers. Je fais travailler les parents en même temps avec moi. Je fais des rendez-vous communs avec les parents. Et si la problématique persiste, je fais appel à mon superviseur. C'est un coach qui supervise. Et donc, on fait un partage d'idées. Et on se dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Qu'est-ce que toi, t'aurais dit? Et petit à petit, ça s'appelle de l'intelligence collective. Et on trouve le résultat, en fait. On trouve comment y arriver. Et puis, il y a aussi des fois des problématiques qu'on ne peut pas résoudre. Moi, je ne sais pas tout faire. Je ne suis pas une magicienne. Je ne peux pas savoir tout faire. Donc, il y a des fois des personnes que je vais renvoyer sur plutôt du corps médical. Je ne suis pas du tout médecin, donc je peux pas savoir.
Oui, tu peux pas avoir la solution à tout,
non,
c'est sûr.
Je n'ai pas la solution à tout.
Est-ce que tu as des projets à venir? Et si oui, lesquels? Parce que on a reçu Alexandre Tardieu récemment sur Radio Libre Périgord, qui nous évoquait une future collaboration. Est-ce que tu peux nous en dire davantage?
Alors, Alexandre Tardieu, c'est la brasserie Épique à Boulazac. Donc, nous allons commencer des after-work pour célibataires. L'idée, c'est de faire un atelier de coaching pour expliquer justement le langage de l'amour. Donc, une fois de plus, on va parler de communication. Sera suivi des tapas et évidemment un atelier de brassage.
Bon, génial. Et donc, c'est quelque chose qui sera récurrent ou c'est un événement
Ce sera des choses qui seront ponctuelles, mais on va dire que ça va se faire une fois par mois.
Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver? Comment on fait pour faire appel à Caroline Foissac?
Alors, vous pouvez trouver mes coordonnées sur mon site internet, Caroline Coach Périgueux, sur LinkedIn, Caroline Foissac, ainsi que sur Facebook, pareil, Caroline Foissac, ou Instagram.
Eh bien, super. Merci beaucoup, Caroline. Et puis, à très bientôt.
Merci. À bientôt.
C'était Carolina sur Radio Libre en Périgord. Thank you.